Eh bien, shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse et nous permette de comprendre les Écritures avec l'aide de son Esprit. Voilà, aujourd'hui je voudrais essayer de vous donner quelques réflexions concernant l'esprit gréco-romain à la fin des temps et nous allons prier pour commencer si vous voulez bien. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons pour les écritures que tu nous as données et nous te prions, Seigneur, de nous inspirer pour les comprendre, pour nous préparer à ton retour et nous remplir de ta sagesse. Seigneur, bénis ton peuple, que ton Saint-Nom soit glorifié dans les cieux, tu reviens bientôt, merci Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Voilà, vous savez que le sujet de la fin des temps est un sujet assez complexe, que beaucoup de gens en ont parlé. Il y a pas mal de choses intéressantes, il y a aussi des choses qui se contredisent, c'est pas facile. Et ce qu'on va essayer de faire pendant cette étude, c'est d'essayer de comprendre l'esprit des choses. Il faut, quand on veut aborder la question de la fin des temps, il faut le faire, je pense, par facettes, parce que c'est comme un objet à plusieurs facettes, on n'arrive pas à tout comprendre d'un coup. Et donc, nous savons qu'il y a une guerre entre le bien et le mal, et qu'à la fin, le mal perd, que le bien va remporter la victoire définitive, parce que c'est Dieu qui le veut. Et que cette lutte entre le bien et le mal a différents aspects. Il y a l'aspect spirituel, parce qu'avant tout c'est spirituel, mais c'est aussi matériel, avec des aspects militaires, violents, mais aussi des aspects philosophiques dans la pensée, et aussi des aspects moraux. Donc la bataille qui se joue, elle se joue sur plusieurs plans. Et c'est pourquoi c'est si compliqué. Alors, je ne vais pas relire, mais dans l'Apocalypse au chapitre 12, versets 7 à 12, nous voyons qu'il y a une guerre dans les cieux et que Michel et ses anges vont se battre contre le dragon. Et le dragon est jeté à terre. Et là, nous avons des temps très difficiles pour la terre. Je rappelle qu'il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui êtes habités dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc voilà, c'est pas Satan qui gouverne, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Donc, on va essayer de comprendre certains aspects du sujet. Alors, quand on étudie l'Apocalypse, chapitre 17, le livre de Daniel aussi, en particulier, les exégètes sont tous d'accord pour dire que, à la fin des temps, on voit revenir l'Empire romain sous une nouvelle forme, une forme moderne bien sûr, et avec un nouveau nom, puisque ce nom c'est Babylone, associé à la grande prostituée. Alors, ça représente évidemment la religion du syncrétisme général, final. Babylone, c'est la confédération qui est en train de se construire de l'Antéchrist à la fin des temps et qui va dominer le monde par sa force, par son économie, sa puissance militaire évidemment, par ses mœurs, par ses pensées, par ses alliances. Et par cette religion aussi qu'il porte. On parle de Rome parce que Babylone est devenue le surnom de Rome, je vais vous en parler, très peu de temps après que le temple soit tombé en l'an 70. En fait, les contours de cette confédération sont encore mouvants maintenant, pour l'instant. Les choses vont se fixer. Mais elle est bâtie, cette confédération est bâtie sur la civilisation occidentale. Et sans doute alliée à une grande partie du monde musulman. C'est donc intéressant de se rappeler les traits essentiels de la Rome antique et vus par les religieux de l'époque où le temple est tombé. Ça, c'est intéressant. Alors, il y aura deux parties dans cette étude. La première partie, je vais essayer assez rapidement de vous parler de Rome, parce que ce sera assez rapide, parce qu'évidemment, beaucoup de gens en ont déjà parlé. Mais le titre, c'est l'esprit gréco-romain. Donc la seconde partie, ce sera sur la Grèce, afin de comprendre, mais qu'est-ce que la Grèce vient faire à la fin des temps? Alors concernant Rome, je me suis beaucoup servi d'un ouvrage extraordinaire, assez ancien maintenant, qui s'appelle Jérusalem contre Rome, et qui a été écrit par Mireille Abbas Lebel aux éditions du Cerf. C'est un livre qui malheureusement doit être épuisé maintenant, un très gros ouvrage, très intéressant, très fourni, et on y apprend beaucoup de choses. Dans la tradition juive, le royaume des ténèbres doit laisser la place au monde de la lumière. Et Rome trouve sa place parce que c'est la puissance presque universelle qui s'est opposée à Israël. Le passage du royaume des ténèbres à celui de la lumière est envisagé par le peuple juif dans cinq thématiques que je vais vous rappeler parce que vous en connaissez sans doute plusieurs déjà, qui sont dans la parole de Dieu. Et le premier thème, ce sont les bouleversements cosmiques, c'est-à-dire que ce changement fondamental où on va passer du royaume de ténèbres dans lequel nous vivons, au royaume de la lumière, qui sera le millénium, eh bien, il sera accompagné de bouleversements cosmiques. C'est la parole qui le dit, c'est clair, ça s'appelle le jour du Seigneur, hein, et ce jour est terrible, terrifiant. Si nous attendons le retour du Seigneur, gloire à Dieu quand il reviendra, mais les choses seront terribles. Je vous lis par exemple dans Joël 2,31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Dans Ésaïe 13,9, on lit, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude, en exterminera les pécheurs. Et puis Joël 1,15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Donc vous voyez, ça c'est le premier thème. Le second thème, je ne vais pas m'étendre, c'est la guerre universelle. Une guerre universelle qui va détruire des milliards de personnes. C'est écrit dans les Écritures, c'est clair, mais c'est la preuve d'une immense iniquité qui est sur la terre. Une immense iniquité. Et donc son apothéose, eh bien, c'est la guerre universelle. C'est logique. Alors tout ça va précéder une immense repentance, évidemment, et l'arrivée du royaume de l'Éternel sur terre, et donc qui amènera la joie et la paix. Pour mémoire, vous pouvez aller revoir les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel qui parlent de la guerre de Gog et de Magog. Troisième thème, les douleurs de l'enfantement. La fin va être précédée de secousses. Donc, ces secousses, ça peut être des guerres, des famines, des prodiges annonciateurs, des tremblements de terre, des douleurs au paroxysme qui seront l'imminence de l'arrivée de Yeshua HaMashiach. Je vous lis simplement Michée 4, 10. Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs, tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Le quatrième thème, c'est le thème du quatrième empire. Le livre de Daniel en parle. Je vous lis par exemple dans Daniel 7, versets 23 à 27. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Alors, vous voyez. Et au verset 26, on lit, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Le quatrième royaume. Nous y sommes au quatrième royaume. Et pour confirmer ça, vous voyez que à l'époque d'Abraham, quand Abraham a dû faire la guerre contre quatre rois, eh bien, curieusement, le quatrième, je vous lis dans Genèse 14, 1. Et c'est au jour d'Amraphel, roi de Shinar, d'Arioch, roi d'Elassar, de Kedorlaomer, roi des Lames, et écoutez bien, de Tidal, roi de Goïm. Alors, je sais bien que roi de Goïm, c'était une terre. Mais franchement, quand vous lisez dans l'hébreu, vous pouvez comprendre que c'est aussi le roi des Goïm. Et le roi des Goïm s'appelle Tidal, dont je ne connais pas le sens, mais vous voyez que le quatrième, c'est le roi des Goïm. Enfin, le peuple d'Israël, les sages d'Israël, ont pris ce verset de Genèse 15, 12, qui dit, au moment de la bénédiction, quand Dieu est apparu à Abraham, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité va l'assaillir. Et les sages d'Israël disent que le mot frayeur s'attache à Babylone, c'est le temps de Babylone. Le mot obscurité, c'est le temps des Mèdes et des Perses. Le mot grande, c'est le temps de la Grèce. Et le mot « tombe », c'est le temps de Rome. Le thème suivant, et le cinquième thème, qui est moins connu, c'est le thème de la quatrième philosophie. À l'époque de Yeshua, il y avait, parmi les religieux juifs, il y avait plusieurs sectes. Il y avait les Sadducéens, les Pharisiens et puis les Esséniens. Et au début de l'an 6 de notre ère, il y a eu un recensement exigé par Rome. Et là, il y a des sages d'Israël qui se sont fâchés. Parce que c'est un interdit biblique. Et il y a deux docteurs de la loi qui se sont fâchés. Il s'agit de Judas le Galiléen et Tsadok, qui ont créé ce qu'on appelle la quatrième philosophie. Alors c'est quoi cette quatrième philosophie? Eh bien, c'était le parti des Zélotes qui disait « pas d'autre maître qu'Élohim ». Ils ne voulaient plus d'obéissance à Rome. Et parmi ces Zélotes, il y en avait qui s'appelaient les Sicaires, qui étaient donc des soldats en quelque sorte, armés d'un couteau, et qui étaient capables de poignarder tous ceux qui s'opposaient à leur doctrine. Donc, c'est ce qui a déclenché la guerre contre Rome, et qui s'est révolté, pensait pouvoir faire venir le règne de l'Éternel, et puis vous savez ce qui s'est produit, c'est le contraire qui est arrivé, et là, la chute de Jérusalem, et en l'an 70, et la guerre s'est terminée à Masada en l'an 73. Alors, c'était une catastrophe pour le peuple juif. Et après cette catastrophe, il fallait quand même garder l'espoir. Et Flavius Joseph, qui est un juif, vous le savez, qui a écrit, il a écrit ceci. Elohim a quitté le sanctuaire, il réside désormais chez les Romains. Et donc, on se trouve là dans une situation assez très difficile pour les Juifs qui ont été déportés en quantité, qui ont été emmenés à Rome, qui ont été emmenés dans tout le royaume de Rome, dans tout cet empire. Eh bien, on ne peut plus parler ouvertement contre Rome. Donc, c'est à ce moment-là que l'opposition contre Rome va utiliser des surnoms. Et le premier surnom qui va être donné à Rome, c'est Babylone. Et la question qui se pose aux sages d'Israël de l'époque, mais comment ça se fait que ce quatrième empire ne soit pas tombé? Puisque Daniel avait dit que ce quatrième empire tomberait et qu'un cinquième empire, celui de l'Éternel, viendrait s'installer sur terre. Mais tout simplement parce que les sages d'Israël n'ont pas vu le temps de la grâce qui a été ouvert par Yeshua Machiar. Alors, le premier surnom de Rome, c'est Babylone. Et donc, c'est un surnom qui va durer jusque le deuxième siècle à peu près. Et même, je pense, les chrétiens l'appelaient Babylone aussi par moments, parce que dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 5, verset 13, on lit un verset un peu étonnant. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Je pense que ce Babylone-là, c'est Rome. Alors, la chute de Babylone, celle de la Babylone antique, préfigure celle de Rome. Mais tout était dit de manière voilée. On savait que cette Babylone nouvelle allait tomber, mais quand? Et en attendant, l'Empire était trop puissant. Et donc, ça ne va durer que deux siècles avec ce surnom de Babylone. Et puis, après, un autre surnom est arrivé. Parce que Rome était vraiment devenue la méchanceté en grande partie. Et Rome est venu incarner le mal sur la terre, de sorte que le terme méchant correspondait bien à Rome, au chef romain. Et donc, dans la Bible, le peuple juif, concernant quelqu'un de méchant, pensait au frère de Jacob, Ésaü. Ésaü, qui est encore appelé Édom, qui va donner les Édomites et les Iduméens. Et donc, le deuxième surnom de Rome, à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est Édom. Et par exemple, on peut lire dans le livre, les rabbins ont écrit ceci: un préfet demanda à un membre de la famille de Salu qui aurait le pouvoir après nous, après les Romains. Celui-ci sortit une feuille de papier blanc, prit une plume et écrivit. Après cela sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü. C'est à ce sujet qu'on dit: regardez comme les paroles anciennes deviennent nouvelles dans la bouche d'un sage. Autrement dit, les Juifs ont compris que l'Empire romain était une image d'Ésaü, d'Édom, et que quand l'Empire romain, l'Empire d'Édom tomberait, eh bien, ce sera Israël qui prendra la gouvernance du monde avec à sa tête Yeshua Mashiach. Je rappelle que le roi Hérode était un Iduméen, c'était un descendant d'Ésaü, et il pactisait avec Rome. Dans Genèse 25, verset 23, on peut lire: « Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » On n'a encore jamais vu ça. Le plus petit va assujettir le plus grand. Ça va venir. Les rabbins, eux, ont dit ceci: deux nations sont dans ton sein, deux nations possédant chacune son univers propre, l'une la Torah et l'autre le péché. C'est un peu simplifié, mais bon, c'est leur vision. Alors, vous savez que quand Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac, eh bien, la haine d'Ésaü a grandi au point de vouloir tuer son frère. Je vous lis dans Genèse 27, 41, « Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son frère l'avait béni. Et Ésaü disait dans son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Je tuerai mon frère. Et ça, c'est terrible. Alors, Rome est l'image d'Ésaü. Et Rome avait à sa tête un sénat. Alors ici, je vais vous dire quelque chose qui est rapporté dans le Talmud. Rabbi Eleazar ben José, du deuxième siècle, a décomposé un mot latin, sénator, en trois morceaux, sn, n, enter, vous voyez, trois, et c'est sa façon de faire, hein, mais je vous le rapporte. Et à partir de ce mot latin, il a pris trois mots hébreux. Le premier mot qui correspond à sn, c'est sana. Et sana, ça veut dire haïr, être odieux. Le deuxième, c'est nakam. Nakam, se venger, tirer vengeance. Et puis le troisième, c'est Natar. Natar, garder rancune. Et alors, Rabbi Eleazar ben José dit, eh bien, le Sénat romain va se comporter de la façon suivante par rapport à Israël. Il est, se venge, garde rancune. Voilà. Donc, il deviendra hostile, vindicatif et rancunier. Et donc, dans la tradition juive, Ésaü, c'est l'antithèse de Jacob, et Édom, c'est l'antithèse d'Israël. Par conséquent, Édom est le type de Rome. D'ailleurs, je vous rappelle qu'Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü, d'Édom, et qu'il est condamné à une guerre universelle. On le voit dans Exode 17-16. Et qui est-ce qui s'attaque au trône de l'Éternel? C'est Édom. C'est Amalek. Il s'attaque au trône de l'Éternel, qui est à Tsion. Et que répond Dieu à Édom? Il dit dans Ézéchiel 35, versets 4 à 6, « Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, et nous y sommes. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. » Donc c'est clair. Et l'histoire nous dit que la montagne de Séir a été réduite en un désert. Mais dans Malachie 1, versets 4 à 5, Dieu dit, « Si Édom dit « Nous sommes détruits », nous relèverons les ruines. » Elles se relèvent toujours. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera le pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Voici, vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Donc, voyez que la mémoire juive est tellement marquée qu'elle ne peut pas, admettre que ce régime romain ne puisse pas tomber. Regardez au cours de l'histoire tout ce que Rome a fait au peuple juif. Lamentation 4, versets 21-22. « Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Uth. » Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Tsion, ton iniquité est expiée, il ne t'enverra plus en captivité. C'est la fin de la captivité d'Israël. Alors, Ésaü est fort pour l'instant. Et la parole nous dit qu'il vivra par son épée. Genèse 27, versets 39 à 40. Isaac, son père, répondit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi par ton frère. » Alors, Jacob est destiné à dominer, mais on lit ailleurs que Israël, pour l'instant, cède la place pour la domination à Ésaü. Et on le voit dans Genèse 33,14, que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Rome est la plus grande des nations, la première des nations encore maintenant, par sa puissance. Et Bilam l'avait dit, Nombre 24-20, Bilam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations. Mais un jour, il sera détruit. Donc vous voyez, c'est écrit, tout est écrit. Alors, il est également intéressant de constater une autre chose. Tout ça a déjà été dit, mais je le répète, que l'islam a toujours été un ennemi d'Israël. Oui, parce qu'il y a une jalousie. Parce qu'il y a deux personnages dans la Bible qui ont perdu leur droit d'aînesse, c'est Ismaël et Ésaü. Et ces deux-là voudraient récupérer le droit d'aînesse, la bénédiction de l'Éternel. Alors, on sait que Ésaü s'est marié avec une fille d'Ismaël, et donc, il est normal qu'à la fin des temps, l'empire d'Ésaü, l'empire d'Édom, l'empire romain, Babylone, soit associé à une grande partie du monde musulman. C'est logique. Alors, je vais parler de la chute de Babylone maintenant. Donc, Babylone, c'est Rome. Mais rappelez-vous de la chute de la première Babylone. Dans Daniel 5, versets 22 à 25, il est écrit « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux ». Voyez comment nos pays s'élèvent contre l'Éternel. Et son jugement, c'est ceci. Rappelez-vous la main qui vient écrire sur le mur. Et il dit en araméen, c'est écrit en araméen, il dit « Mene, mene, tekel ou farsim ». Mene, mene, tekel ou farsin. Ce qui veut dire compter, énumérer, définir, nommer. Et deux fois Dieu dit tes œuvres sont comptées, énumérées, expliquées, présentées devant moi, dit l'Éternel. Et puis mis dans la balance. Tekel s'est mis dans la balance. Et puis, enfin, le dernier mot, Upharsin, la racine, c'est parash, paras, qui veut dire se casser en deux. Se casser en deux. Alors, le jugement d'un empire pour des questions de légèreté, puis la question d'avoir aussi s'être élevé contre l'Éternel, eh bien, ça se termine par son brisement. Et quand on est brisé en morceaux, on perd sa force. Avez-vous remarqué que la division est un jugement? Avez-vous remarqué que l'Église universelle, l'Église, toutes les Églises, ont été divisés en 1000 morceaux. C'est aussi une forme de jugement. Alors je voudrais continuer à vous parler de Rome pour vous faire un résumé des grandes caractéristiques de cet empire. Seule une puissance mondiale peut asservir Israël. Et donc c'était Rome, puissance politique, militaire, économique, la plus grande que le monde ait connue. Cette puissance puissance militaire. Pourquoi ? Parce qu'elle était très organisée. Les Romains sont des gens très organisés, entraînés, équipés, que personne ne pouvait résister, sauf, et vous allez voir comment c'est étonnant, parce que ça peut nous faire comprendre des choses aussi pour la fin des temps, les seuls qui ont résisté, ce sont les Parthes qui étaient installés en Perse, c'est-à-dire en Iran. Curieux quand même. Et les Romains étaient maîtres des machines de guerre, c'est l'organisation de la force et de la violence. Ça, c'est Rome. C'est la technique, la science, au service de la guerre. Premier trait. Deuxième trait, la richesse et la cupidité. Les rabbins nous ont laissé des textes qui montrent à quel point les Romains aimaient l'argent. Alors, toute ressemblance avec ce qui se passe actuellement, bon. Je vous lis ce qu'ils ont écrit. Il n'y a pas de forme de malhonnêteté dont le pouvoir s'abstint. Ils rendaient à leur famille contre rançon ceux qui avaient été mis en prison pour brigandage. Seul celui qui ne pouvait pas payer était considéré comme criminel. Ils ont rajouté « Soyez circonspects avec le pouvoir, car ces gens ne s'intéressent à quelqu'un que dans leur intérêt. » Vous savez que Rome était surnommé Ésaü, donc ils ont écrit « Ésaü agit comme les gouverneurs, les ducs, les préfets qui se rendent dans les villages, volent et pillent et à leur retour disent « Amenez-nous ». Les pauvres, que nous les nourrissions. D'un côté, ils volent, de l'autre, ils font semblant de donner aux pauvres. Ils ont encore écrit, toute richesse n'afflue qu'au royaume des hommes et celui-ci ne se remplit jamais. Enfin bref, troisième trait de caractère, civilisation du divertissement. Vous savez que les Grecs ont inventé les Jeux Olympiques, mais les Romains, eux, ils avaient inventé les Jeux du cirque avec des mises à mort. Un plaisir d'assister à des massacres. C'est comme ça. Mais les rabbins disaient, s'asseoir au stade, c'est commettre un meurtre. Et par ailleurs, il y avait à Rome, à la Rome antique, un instinct de débauche. Il y avait les orgies qui étaient coutumières et les rabbins disaient « Le mâle soumis au mâle, ils exposent des garçons dans des maisons infâmes. » Ils ont écrit « Tu pratiques l'adultère, l'union illicite avec des garçons, toi, efféminé et injuste, si t'es perverse et maudite entre toutes, malheur à toi si t'es impur du pays latin. » Ou encore, en toi, une mère avait un commerce impie avec son enfant. Une fille devenait l'épouse de son propre géniteur. En toi, les hommes pervers avaient des relations avec les bêtes. Silence, misérable cité scélérate, pour l'orgie à laquelle tu t'es livré. Vous voyez où ça en allait ? C'était terrible, terrifiant, comme Sodome. La question de la moralité, mais les rabbins disaient « superbia et avaricia ». Ils ajoutaient que cet empire troublerait tout, briserait tout, emplirait tout des maux à cause d'une cupidité dégradante et d'une ignoble soif de richesse. Eh oui. Enfin, je termine par un autre trait qui était que les Romains disaient qu'il y avait les bienfaits de la civilisation. Alors, les Romains disaient, nous avons institué beaucoup de marchés, fait beaucoup de termes, multiplié l'argent et l'or, pour qu'Israël se consacre à la Torah. Sur quoi les rabbins répondaient que les Romains faisaient des marchés pour y mettre des prostituées, que les ponts étaient faits pour y mettre des péages. Quant à la propreté corporelle, recommandée surtout pour les chefs religieux, les termes étaient si dangereux, parce que on s'y brûlait, qu'il fallait prononcer une bénédiction en y entrant. Et Rome était hypocrite, rusée. Et d'ailleurs, quand quelqu'un était pris et qu'on accusait de crime, on lui disait « Prenons l'hypothèse que tu n'as pas tué. Avec quoi as-tu tué ?» Vous voyez, un royaume tordu, tortueux. Je voudrais maintenant passer à la seconde partie qui va compléter pour vous parler de l'esprit grec, l'esprit de Yavan. Et c'est fort fort important de parler de cet aspect. On n'en parle pas beaucoup, pas souvent, mais ça vient compléter l'aspect de Rome. Pourquoi? Alors d'abord, en hébreu, la Grèce se dit Yavan, qui signifie argile, argile souple. C'est la terre, la terre. Donc, si vous voulez, Yavan est attaché à la terre, à ce qui est palpable. C'était un des fils de Japhet, en hébreu Yéphet, Yéphet, fils de Noé, dont la racine est le verbe patar, pata, qui signifie être ouvert, séduisant, beau, esthétique, élégant. Donc, vous voyez que Yavan, la Grèce, c'est quelqu'un qui est séduisant, attachant, mais en même temps attaché à la terre, ce qui est matériel, le matériel. Et Israël va être séduit par Yavan. Et d'ailleurs, les sages d'Israël, à un moment donné, ont dit qu'ils ont autorisé la traduction de la Bible hébraïque en grec, ça va donner la Bible de la Septante, vers 270 avant Jésus-Christ, parce qu'ils disaient que le grec était la seule langue qui permettait une traduction correcte de la parole de Dieu. Et pour ça, il se servait de Genèse 9, 27, qui dit « Que Dieu étende les possessions de Yafet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Par contre, compte tenu de ce qu'on a dit sur Rome, les rabbins considéraient que le latin, la langue latine, était une langue de guerriers. Nous savons que Yavan, la Grèce, a été le berceau de la civilisation occidentale. Alors il semble étonnant de parler de la Grèce à la fin des temps, parce que la Grèce actuelle, c'est un tout petit pays qui n'a plus beaucoup de puissance. Mais on doit comprendre que, je ne parle pas par hasard de la Grèce, parce que quand les Romains ont envahi la Grèce, ils ont découvert un pays d'une culture extraordinaire, et au niveau de la pensée et des réflexions, c'est la Grèce qui a dominé sur les Romains. Les Grecs ont vaincu les Romains au niveau de la pensée. Vous savez que Israël a été dans plusieurs exils, et à chaque fois c'était une déportation, sauf un exil dont on parle, qui est l'exil grec. Pourquoi on dit un exil grec alors que le peuple d'Israël n'a jamais été en Grèce? Parce que le peuple juif de l'époque a été occupé par la Grèce, il n'était plus libre et il était en grand danger. En grand danger parce qu'il était séduit par la Grèce. Le danger de la Grèce, c'est la destruction spirituelle d'Israël. En ce temps-là, au moment de l'occupation, ce sont les Maccabées qui ont réagi et qui ont rétabli les valeurs, sauvé les valeurs spirituelles d'Israël. Autrement dit, Yavan est capable d'assimiler les nations, elle ne les détruit pas, elle les assimile, c'est la civilisation du syncrétisme. D'ailleurs, regardez Actes 17-16, que nous dit Paul. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ouais, plein de religions. La civilisation romaine a non seulement adopté la philosophie et l'humanisme grec, mais elle porte aussi dans son sein la descendance d'Amalek. La Grèce, Yavan, veut détruire Israël au point de vue spirituel, Amalek veut détruire Israël physiquement. Deux grands ennemis. Alors, pour comprendre l'esprit de Yavan, c'est pas, bien sûr, on peut regarder les événements actuels, mais moi je me sers plutôt des Écritures. Alors, on peut se servir de documents anciens, et notamment, je me suis servi de documents qui ont été écrits au sujet de la guerre des Maccabées. Alors, vous savez qu'il y a quatre livres des Maccabées, il y en a quatre. Deux ont été retenus dans la Bible catholique. Quant à la Bible protestante ou la Bible Tanakh juif, il n'y a pas les livres des Maccabées, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les livres des Maccabées ont été écrits en grec. Or, le canon du Tanakh, le canon exige que ça soit écrit en hébreu. Donc, première raison. Deuxième raison, c'est que les Maccabées étaient des Lévis. C'était des prêtres. Et quand ils ont gagné la guerre, ils ont pris le pouvoir politique, ce qui leur était strictement interdit. Et c'est pour cette raison, cette deuxième raison, que les livres des Maccabées ne sont pas dans le canon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces livres ne racontent pas des choses véritables. Vous comprenez? Donc je me suis servi des livres des Maccabées et c'est intéressant parce que ça va résumer ce qui se cache dans l'esprit de Yavan. Alors je vous cite une phrase du Rav Ben Chetrit qui dit: Yavan a obscurci les yeux d'Israël. La spiritualité a été détournée vers la superficialité. Et c'est bien ça. On abaisse les choses. On va vers la terre. Je vous rappelle que Yavan, c'est l'argile. Mais une argile séduisante. Une belle argile. Alors pourquoi je vous parle de ça à la fin des temps? Eh bien, on va maintenant aller dans le livre de Zacharie. Alors, il faut bien poser les choses. Zacharie était contemporain du roi des Perses, Darius Ier. Il a prophétisé dans les années 520 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, il est d'ailleurs cité dans le livre d'Esdras, chapitre 5, verset 1 et 6, verset 14. Je ne vais pas vous le lire, mais il est cité. Il est cité aussi dans le livre de Néhémie 12, 16. Donc c'était quelqu'un de cette époque, Zacharie. Et à l'époque de Zacharie, on ne parlait pas de Yavan. On ne parlait pas de ça. Surtout en rapport avec Israël. Pourquoi? Parce que Alexandre le Grand ne va venir à Jérusalem que en l'an 332 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, Zacharie, c'est moins 520, et Alexandre le Grand, moins 332. À peu près 200 ans d'écart. Et ce prophète Zacharie, il écrit un verset vraiment étonnant. Ça se passe dans le chapitre 9. Versets 13 et 14, il écrit, c'est la version Tob que j'ai légèrement modifiée. « Je bande mon arc, c'est Judas. Je l'arme d'une flèche, c'est Éphraïm. Je vais exciter tes fils Tsion contre tes fils Yavan. » Et je te brandirai tel un héros son épée. L'Éternel Yodévavé, au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche jaillira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, Adonai Yodévavé, sonnant du cor, s'avancera dans les ouragans du midi. Écoutez, ce texte est vraiment étonnant. Je vous mets Matthieu 24 en vis-à-vis, car comme l'éclair, on vient de lire comme l'éclair, part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair, tchac, l'avènement du Fils de l'homme. La flèche jaillira comme l'éclair, dans le verset de Zacharie. Alors pourquoi c'est étonnant ce texte? Parce que on a là affaire à une guerre entre les fils de Tsion et les fils de Yavan, la Grèce, et on voit que Dieu se sert d'un arc qui est Judas et d'une flèche qui est Éphraïm. Or, s'il s'agissait de la guerre des Maccabées, au moment de la guerre des Maccabées, qui a eu lieu en 134 à 128 avant Jésus-Christ, Antiochus IV, qui a été un roi terrible, à cette époque-là, Éphraïm était dispersé. Il n'existait plus. Il y avait en Israël, il n'y avait que Judas, avec des Lévites. Voilà, c'était le royaume de Judas. Donc comment Dieu peut-il, au moment de la guerre des Maccabées, se servir d'une flèche qui s'appelle Éphraïm? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Zacharie parle de quelque chose qui arrive à un moment où Éphraïm réapparaît. Et à quel moment ça arrive? Eh bien, ça arrive quand la prophétie d'Ézéchiel 37 au verset 19 se réalise. Je vous lis. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois. » En sorte qu'il ne soit plus qu'un dans ma main. À quel moment ça se produit, ça? Eh bien, ça se produit c'est chapitre 37 d'Ézéchiel, ça se produit avant le chapitre 38-39, la guerre de Gog, et c'est-à-dire que ça se produit maintenant. Les tribus d'Israël reviennent, et Dieu est en train de regrouper Juda et Éphraïm. Donc, cette guerre entre les fils de Tsion et les fils de Yavan, c'est maintenant. Vous comprenez ? Alors, c'est une lutte entre deux esprits, deux façons de voir les choses. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant Éphraïm et Juda, vous pouvez revoir l'étude que on avait donnée et qui s'appelle « Les deux maisons ». L'Éternel se sert de Juda comme un arc. Un arc, ça se dit « keshet ». Keshet avec une racine « kasha » qui veut dire « raidir », « se raidir ». Et qui donne aussi le sens de un mot qui donne « kosh » qui veut dire « poser un appât ». Éphraïm, c'est la flèche qui se dit « retz » dont la racine « retzetz » ou « ratzatz » veut dire « diviser », c'est-à-dire « affaiblir ». Diviser. Autrement dit, je résume ce que Zacharie dit. Juda devient un appât et va se raidir pour Tsion, et Éphraïm, c'est la flèche qui va diviser le camp de Yavan. Alors, ce prophète Zacharie, il est très étonnant parce que dans le même chapitre, il dit des choses qui ont déjà eu lieu et d'autres choses qui vont avoir lieu, etc. Vous savez que les prophètes, d'une manière générale, ils voient à l'avance, mais il est très difficile de savoir dans quel délai ça va se produire dans l'histoire. J'ai déjà pris cette image, mais c'est un peu comme s'il voyait, vous êtes au bord de la mer et vous voyez deux grands navires au loin, l'un derrière l'autre. Eh bien, vous voyez qu'il y a le premier, il y a le deuxième. Mais combien de distance y a-t-il entre les deux? Vous êtes incapable de le dire. C'est tout. Les prophètes sont un peu comme ça. Sauf si Dieu leur donne des précisions, bien entendu. C'est ainsi que, par exemple, quand Yeshua a parlé dans la synagogue, il a parlé de Ésaïe 61, verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », etc. Vous vous rappelez, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il s'est arrêté là. Mais en vérité, le texte continue. Il dit « Et ». Un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés. Il s'est arrêté là. Autrement dit, dans la même phrase, il y a un trou, une parenthèse de 2000 ans passés. Donc vous voyez que c'est très difficile pour les prophètes de voir le temps. Encore pour vous montrer que tout se retrouve dans un seul chapitre ici, dans le chapitre 9-9 de Zacharie, on lit « Sois transportée d'allégresse, fille de Tsion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Mais mes amis, ça, pour nous qui sommes chrétiens, croyants, Yeshua Mashiach, eh bien, nous savons que ça s'est produit déjà. Donc, vous voyez que dans le même chapitre, il y a des choses qui ont eu lieu, d'autres qui vont avoir lieu. Et donc, si je lis toujours dans ce chapitre, au verset 11 et 12, regardez. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse. La forteresse, c'est Sion. Captif plein d'espérance, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Autrement dit, les captifs qui sortent des tombeaux, de la fosse, c'est quoi? C'est Ézéchiel 37. C'est Ézéchiel 37. Ils sortent, les ossements reprennent vie, le peuple reprend vie, et progressivement, ils se développent, et prions qu'ils reçoivent l'Esprit. Ainsi, le dernier affrontement, c'est maintenant. L'affrontement entre l'esprit de Tzion et l'esprit de Yavan. Et Yavan est intégré dans Rome. Alors, pour comprendre un peu plus, allons voir Yavan. La première trace des Jeux Olympiques date de 776 avant Jésus-Christ. Ces Jeux avaient lieu dans la région d'Olympe, c'est évident, tous les 4 ans, et c'était l'occasion de faire une trêve entre les guerres, entre les cités. Et les Jeux Olympiques étaient dédiés aux dieux, à Zeus, le dieu des dieux, Apollon, Poséidon, et puis il y avait d'autres compétitions aussi, en plus, sportives, des concours de toutes sortes, dont chaque ville se faisait un honneur de les organiser. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que l'esprit de Yavan est dominé par la compétition et la concurrence. Le faible n'y trouve pas sa place. C'est la loi du plus fort et de la majorité qui prévaut. En réalité, c'est une conséquence de la chute de l'homme. On trouve partout depuis la chute de l'homme ce principe de la loi du plus fort, même dans la nature. Mais lorsque le royaume de l'Éternel, royaume de Yeshua Mashiach, va s'installer sur terre, les choses vont changer. Ça ne sera plus la loi du plus fort. Regardez Ésaïe 65, 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. L'esprit est totalement différent. Alors, parlons de cette loi du plus fort. Tout ce que je vous dis n'engage que moi, bien entendu. La compétition, c'est un principe charnel. C'est on honore la force et la beauté, le succès, le sport, l'intelligence, l'art, l'esprit pratique, la domination, la science, la philosophie, les discours bienfaits qui entraînent la majorité des gens. Et tout cela, regardez, c'est centré sur l'homme fort. C'est une société de vainqueurs. Mais ce sont des valeurs superficielles, passagères. Et le Rav Ben Chetrit nous dit de bonnes phrases, il dit « Le superficiel ne comble pas le manque d'essentiel. » Si vous manquez l'essentiel, vous pouvez rajouter tous les superficiels que vous voulez, ça ne va pas vous combler. Tandis que l'esprit de Tzion, c'est un esprit de complémentarité et non pas de concurrence. Si l'esprit de Yavan aime les hommes forts, ça ne veut pas dire que l'esprit de Tzion soit faible, pas du tout, ou incompétent, pas du tout. Bien au contraire, mais on n'y trouve pas la rivalité. Le mot qui convient, c'est complémentarité. Parce que chacun y trouve sa place, y compris les plus faibles, y trouve sa place dans le corps du Mashiach. L'esprit de Tzion, c'est l'esprit du royaume de Yeshua. Son fonctionnement repose sur la pratique des valeurs intérieures, l'amour, la foi, la tzedaka, la vérité. Et si je peux résumer, son fonctionnement repose sur les fruits de l'esprit. Et pour avoir les fruits de l'esprit, il faut avoir reçu l'esprit. Et pour ça, il faut être né de nouveau. Donc, son principe général est que chacun doit être à sa place, dans sa fonction. Personne n'est exclu, pas même le plus faible. Il n'y a pas de jugement par niveau de puissance ou de force, mais tous les membres sont utiles pour le fonctionnement du royaume. Il n'y a pas de rivalité, de jalousie, d'ambition personnelle. C'est l'Éternel lui-même qui place et qui envoie ses disciples en mission. Écoutez 1 Corinthiens 12, versets 18 à 27, mais je prends que les morceaux. Maintenant, Elohim a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est Elohim. Et au verset 27, vous êtes le corps du Mashiach et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, je me suis posé la question, mais à quoi veut mener l'esprit de Yavan? À quoi ça nous amène? Alors, la réflexion, elle peut aller très loin. Quand on la pousse à bout, elle peut aller très loin. Et je ne peux pas me permettre de la pousser à bout comme ça. Mais regardez la méthode. Je prends le livre du deuxième Maccabée, chapitre 6, versets 1 et 2. Le roi, c'était Antiochus IV, Antiochus Épiphane, qu'on appelait Antiochus Épimane, le fou. Peu de temps après, le roi envoya un vieillard d'Athènes. Alors, c'est important à comprendre. Il n'a pas envoyé un jeune, très dynamique, très tout ce que vous voulez, pour aller parler au peuple de Juda. Il a envoyé un vieillard. Qu'est-ce que représente le vieillard? Il représente la sagesse. Alors, je lis. Le roi envoya un vieillard d'Athènes pour contraindre les Juifs à abandonner leur culte. Un vieillard. Ça veut dire que il va envoyer la sagesse d'en bas pour contraindre la sagesse d'en haut. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Et donc, la sagesse d'en bas est mandatée pour faire plier la sagesse d'en haut. Autrement dit, c'est la philosophie, l'humanisme contre la foi. Et ça, c'est l'esprit de Yavan. Parlons des mœurs. Les mœurs de Yavan. À l'époque, ils étaient libres, les mœurs. Par exemple, les hommes mûrs, eh bien, avaient la charge d'enseigner les jeunes garçons, les former, et parmi ces hommes mûrs, ben, c'était tout simplement des pédophiles. Et ces relations sexuelles, ça faisait partie de la formation des jeunes. C'était comme ça. à l'époque. Et les hommes, ils épousaient des femmes pour avoir des enfants, mais pour le plaisir, c'était plutôt avec d'autres hommes. Et d'une manière générale, d'ailleurs, les hommes avaient tous les droits. Donc, ils pouvaient avoir des concubines, des prostituées, des étrangers, des esclaves, etc., n'importe qui. Mais par contre, les épouses devaient rester fidèles. Donc vous voyez que Yavan a des valeurs sur les mœurs complètement opposées aux valeurs de Tzion. Je lis dans 2 Maccabées 6, 18, Éléazar, un des premiers docteurs de la loi, homme déjà avancé en âge, donc un sage, et du plus noble extérieur, était contraint, la bouche violemment ouverte, de manger de la chair de porc. C'est un premier aspect, donc domination, on en voit la domination, la sagesse d'en bas qui veut dominer la sagesse d'en haut. Les mœurs libres, la pensée unique maintenant. 1 Maccabée 1, versets 43 et 44. Le roi Antiochus publia un édit dans tout son royaume pour que tous ne fissent plus qu'un seul peuple et que chacun abandonnât sa loi particulière. Toutes les nations se conformèrent à l'ordre du roi. L'esprit de Yavan est un esprit logique. Et l'esprit de Yavan ne supporte pas la théocratie. Parce que déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y avait la volonté en Grèce de laïciser la société. On faisait déjà disparaître les mythes religieux progressivement pour expliquer l'origine du monde, non pas grâce à des puissances divines, mais grâce à des réalités naturelles. Donc vous voyez, 8 siècles avant Jésus-Christ, ça a commencé. Et les Grecs pensaient, ils pensaient beaucoup, que la Terre était le centre du monde et que si elle ne tombait pas, je ne sais pas où d'ailleurs, eh bien c'est parce qu'elle était équidistante des autres planètes. C'est incroyable de penser des choses pareilles à cette époque-là. Donc ils disaient, il y a des forces qui tiennent la Terre à équidistance. Et ils se sont dit, eh bien, le système politique de la cité doit être équivalent à ça, parce que ça tient longtemps. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé quelque chose qui est équidistant de tous les citoyens et qui s'appelle la démocratie. C'est un principe d'égalité. Et lorsque les Grecs sont entrés à Jérusalem, ils ne pouvaient pas, compte tenu de leur système de pensée, ils ne pouvaient pas admettre qu'il y ait une théocratie, un système religieux avec un Dieu qui était le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas possible dans un esprit de Yavan. Et donc, ils ne pouvaient pas intégrer le mode de vie des Juifs. Mais quand la démocratie est installée et que ce pays devient puissant, il veut que tout le monde soit pareil. Et donc, dans la pensée de Yavan, la démocratie étant le meilleur modèle de société, d'après lui, eh bien, il doit s'imposer à tous les peuples. Point, c'est tout. Mais vous comprenez que à l'époque où les Grecs étaient là, en Israël, Israël, enfin Juda, lui, était revenu de Babylone. Et pendant 70 ans, ils ont vécu là-bas à Babylone. Et le peuple juif trouvait que c'était bien de ne plus trop marquer qu'on était juif, au moins certains d'entre eux. Et donc, le peuple de Juda était partagé. Certains ont gardé la religion et d'autres se sont dit, bah oui, pourquoi pas adopter la civilisation grecque? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que le fait d'être le peuple choisi par Dieu, Israël, ça a des conséquences terribles, c'est dur. Quant à Yavanne, sûr, Yavanne, de détenir la vérité, eh bien, il n'y a plus de place pour les autres vérités. C'est comme ça. Et à cause de ça, vous voyez que le monde actuel est parti, au moins le monde d'Ésaü, le monde des Dômes, avec l'esprit de Yavanne qui a imprégné tout. Eh bien, on est parti dans la pensée unique. Alors, pour l'instant, Israël, l'Israël moderne, pour l'instant, est officiellement laïque, mais s'il devient trop religieux, il va être dans le viseur des démocraties. Parce que l'esprit de Yavanne ne tolère pas ça. Vous comprenez? Elles veulent, les démocraties veulent imposer leur vision du monde, et notamment concernant Israël, et notamment concernant le partage d'Israël. Pourtant, ça ne les concerne pas. Yavanne ne comprend pas qu'un dieu puisse être le maître d'un peuple. Il ne comprend pas ça. C'est pas une question. Il ne peut pas comprendre. Il ne comprend pas. C'est tout. Il est bloqué. Alors, évidemment, Yavanne est intelligent. Il tolère les religions comme exutoire. Mais si la démocratie est tolérante, elle reste tolérante à condition d'être le maître. Voilà. Et maintenant, il faut comprendre ce que c'est que la laïcité. La laïcité va puiser ses valeurs et sa morale dans la nature humaine et non pas dans les Écritures. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est évident ce que je dis, mais on ne réalise pas toujours. Donc, l'humanisme et la majorité, c'est ce qui dirige les démocraties. Mais, sauf que la majorité est manipulable. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est tellement évident, mais bon, passons. Donc, les lois qui sont votées à la majorité, eh bien, vont satisfaire plus ou moins l'ordre civil, de telle sorte qu'on puisse, d'une part, vivre plus ou moins en paix, et surtout qu'on puisse satisfaire les besoins humains et charnels. C'est comme ça. Alors, quand on réfléchit à ça, il n'y a pas 36 mystères, vous savez, quand on réfléchit à ça, il y a une dégradation morale qui est inéluctable. Pourquoi? Parce que la morale, telle que nous l'entendons, nous, c'est une notion religieuse. La morale nous a été donnée par la parole de Dieu et par notre conscience. La philosophie n'a pas de morale. Dans les démocraties, une démocratie qui n'a pas de référence biblique, ou qui les perd progressivement, ces références, eh bien, la population veut être satisfaite. Donc, rien n'est prévu pour s'opposer à la majorité qui glisse tout doucement vers sa satisfaction charnelle. Yavan, je vous rappelle, ça veut dire l'argile. Et donc c'est logique, puisque l'esprit de Yavan dit que l'homme est naturellement bon. Il n'y a pas de notion de péché chez Yavan, il faut bien se mettre ça dans la tête, nous. C'est à nous de comprendre ça. Donc les lois humanistes qui sont mises en place à droite, à gauche, dans un pays, dans un autre, n'ont rien à voir avec une notion de péché. Il y a, donc, je vous répète encore une fois, la morale, c'est une notion religieuse. Donc, il n'y a pas dans l'esprit de Yavan, il n'y a pas de lois iniques. C'est nous qui avons décidé que c'était des lois iniques. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit que nous étions le sel de la terre. Parce que le sel, il a pour objectif de conserver, je vous rappelle. C'est un conservateur. Et donc le sel peut faire opposition à certaines choses. Mais si le sel perd sa saveur, ben, il ne sert plus à rien. Il n'y a plus rien pour arrêter le truc. Pour Yavan, la question de la conscience individuelle est une question d'ordre privé. La démocratie, c'est une question de majorité, de conscience majoritaire. Vous comprenez? Donc, ça devient compliqué à la fin des temps. Le traitement des faibles. Eh bien, la majorité, si vous suivez la logique, la majorité va trouver toutes sortes de bonnes choses, de bonnes raisons, par amour bien sûr, pour faire du bien, pour permettre d'instaurer ben, la fin dans la dignité, et notamment la fin des faibles, de ceux qui sont désespérés, des vieillards, des malades, des handicapés, des fœtus non programmés. Comment voulez-vous que ces gens résistent? On va leur dire une petite piqûre et vous dormez. Mais remarquez aussi que dans l'esprit d'Yavan, les faibles ont vraiment pas beaucoup de place. Dieu merci, nous n'en sommes pas toujours là. Mais remarquez que dans beaucoup de procès, dans les tribunaux pour viol, assassinat et autres méfaits, et toutes sortes de choses, bien souvent, les victimes sont laissées pour compte. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réparation pour les victimes? Ou très peu. C'est ce qu'on appelle les dommages et intérêts, bien sûr. Mais beaucoup, beaucoup de victimes sont laissées pour compte. Ça fait partie de l'esprit de Yavan. Je voudrais vous dire que Plutarque a écrit, qui était à Sparte, il a écrit ceci. Un père n'était pas maître d'élever son enfant. Dès qu'il était né, il le portait dans un lieu appelé léché, où il s'assemblait les plus anciens de chaque tribu, il l'observait, et s'il était bien de bonne constitution, s'il annonçait de la vigueur, ils ordonnaient qu'on le nourrît. S'il était contrefait ou d'une faible complexion, ils ordonnaient qu'on le jetât dans un gouffre voisin du mont Téguet, qu'on appelait les Apothètes. Autrement dit, quand les enfants étaient chétifs, les bébés étaient chétifs, on les jetait dans un gouffre vivant. C'est l'esprit de Yavan. Et l'esprit de Yavan a infiltré toute la société. Toute la société. C'est un esprit qui étouffe. Il a même infiltré les églises. Quelqu'un a dit une fois, et c'est vrai, bien souvent c'est vrai, l'Église est la seule institution, la seule armée qui achève ses blessés. Vous voyez, l'esprit de Yavan est tellement naturel, charnel, que c'est très difficile de s'en défaire. Il est étouffant. On pourrait l'appeler plus simplement l'esprit du monde, bien sûr. Mais c'est à un point tel qu'on a du mal à imaginer qu'une société puisse être dirigée autrement. Il y a eu des essais qui ont été faits. Prenez par exemple le marxisme. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de morts. Et puis tout ça a échoué et on est retombé dans les mêmes luttes de pouvoir. Les médias, les entreprises, les loisirs, la gestion des biens, de l'argent, tout est sujet à compétition, à lutte de pouvoir pour arriver au succès, pour réussir, et ce qui fait que chacun baigne dans un esprit épuisant. Alors comment changer? Comment changer de mentalité? Comment changer de façon de penser? Comment changer d'esprit? Ben, c'est tout simplement un miracle. Parce que c'est le fruit d'une véritable conversion. Je vous rappelle en passant que ceux qui sont baptisés ne sont pas forcément nés de nouveau. Et que pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, il faut être né d'eau et d'esprit. Regardez par exemple l'église de Laodicée, Apocalypse 3:17. Regardez sa valeur. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Voilà sa valeur. C'est une valeur de Yavan, une valeur romaine. La preuve de que l'esprit de Yavan est entré dans le monde chrétien depuis longtemps, la preuve, c'est le nombre incroyable de dénominations. Pourquoi? Chacun tire la couverture à soi. Si on n'est pas d'accord, on crée une nouvelle chapelle. Ça s'appelle la concurrence, ça s'appelle la dispute, c'est le fruit des rivalités. On n'est pas d'accord, on ne comprend pas les choses de la même façon, etc. Et le jugement de Babylone a été la division parce qu'elle était légère. Eh bien, le jugement de l'Église est de la même sorte. C'est logique. Combien d'hommes et de femmes cherchent à se réaliser dans les Églises, voulant arriver à un poste en vue, un ministère, aller sur l'estrade, c'est toujours l'esprit de Yavan qui est à l'œuvre. Beaucoup de prédications actuelles sont centrées sur le moi, le bien-être, moi. Yavan ne dit rien d'autre, c'est l'humanisme, et tout cela est superficiel. Alors je vais conclure. La doctrine du remplacement, vous connaissez la doctrine du remplacement, c'était une catastrophe dans l'histoire. Catastrophe dans l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église. L'Église a voulu prendre la place d'Israël. Si les autorités actuelles, spirituelles, ne sortent pas de cette façon de voir les choses, alors, les églises ne sont pas prêtes pour la venue de Yeshua Mashiach. L'histoire catholique a montré un antisémitisme incroyable. Heureusement, le 26 mars 2000, le pape Paul VI a demandé pardon au peuple juif. Et les choses évoluent tout doucement. Une prise de conscience se fait. Mais dans d'autres dénominations, On a parfois gardé une méfiance extraordinaire vis-à-vis d'Israël. On entend souvent l'expression « il ne faut pas judaïser ». J'en ai fait les frais, je connais ça. Mais on croirait entendre le concile de Laodicée. Comme si on allait y perdre son âme. Il est vrai que, et c'est vrai, il y a des prises de position qui sont parfois excessives. Il y a des gens parmi les chrétiens qui se font juifs comme ça, mais encore plus juifs que les juifs. Et ça, ça énerve les autorités. Mais ça montre aussi un antisémitisme bien caché. On cherche la gloire, les positions élevées. On veut un ministère à notre hauteur. Tout ça, c'est l'esprit de Yavan. La concurrence, la loi du plus fort, le succès, l'orgueil, l'apparence, moi, moi, moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une dame qui prêchait, qui a un petit garçon de 2 ans, et lui disait que... Elle lui faisait dire « tu es un leader ». Beaucoup de chrétiens vont devoir s'humilier et reconnaître que l'esprit de Yavan les a saisis. Nous devons recevoir la nourriture et l'esprit de Tzion pour que l'épouse soit prête. Mon opinion, ça n'engage que moi, c'est que de nombreuses églises sont en retard dans leur préparation à accueillir Yeshua Mashiach, parce qu'elles ne veulent pas se greffer sur la racine d'Israël. La chrétienté a hellénisé le Mashiach en changeant les fêtes, le calendrier biblique, ainsi que tous les noms bibliques, dont Yeshua, le Juif, qui est devenu Jésus, le Grec. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas innocent. Le monde chrétien a beaucoup fait pour rendre Yeshua HaMashiach inaccessible aux enfants d'Israël. Et ça, dans le but de remplacer Israël. Alors, il est urgent de changer de mode de pensée et de ne pas chercher une place. Et changer de comportement, pas seulement dans les discours. S'il doit y avoir un vrai réveil, que j'espère, je crois qu'il conduira à une vraie repentance, avec des fruits, avec l'esprit qui descend sur nous, au rétablissement de toutes choses en rapport avec la racine de l'olivier. Rappelez-vous dans Romains 11, versets 17 et 18. « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elles à la richesse de la racine, ne va pas faire le fier aux dépens de ces branches. Tu peux bien faire le fier, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Que l'Éternel vous bénisse tous, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.